On dit souvent qu'il faut aller de l'avant, mais l'avant, c'est après. Pas facile d'avancer dans ces conditions. À moins d'écouter CMA, et ça tombe bien, ça commence. Bonjour et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on se maquille pour aller au cinéma et après, on boit de l'alcool en jouant aux jeux vidéo. Une belle émission, sur le papier en tout cas. Il est temps d'en détailler le sommaire. Quand il y en a trop, ça se voit. Pas assez, ça ne sert à rien. S'il est un domaine où la juste mesure fait toute la beauté de la chose, c'est bien celui de sa chronique. De quoi nous parles-tu ? Caroline.
Bravo, bravo, bonsoir. Et oui, dans un monde où le make-up est partout, d'où vient vraiment cette invention qu'est le maquillage ?
Tadadang ! Ok. L'avantage avec lui, c'est qu'il l'économise souvent pour écrire ses chroniques. Bonsoir Florian, quel est ton papier ce soir ?
Eh bien, ce soir, vous allez savoir le point commun entre la rue de la radio, donc la rue de la Rame, ah, la montgolfière et les éléphants. Et puis écoutez, je vais vous faire un petit peu ma régine ce soir.
Oh la vache, tout ça. Bon, on verra tout à l'heure. Ces gars sont souvent plus forts que lui. Pourtant, il passe à la vitesse supérieure ce soir. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
On joue à quoi ce soir ?
Ce soir, je vous parlerai d'un hérisson marron qui est devenu bleu.
Ok, bon, je crois que j'ai une petite idée. En parlant de jeu, on va jouer ensemble ce soir autour des origines des séries télé et on apprendra aussi ce qu'est un film jaune avec le Graal, on verra. Autant vous dire que, ben, on va avoir de quoi à parler hein, demain à la machine à café. Voici donc la première partie de CMA. Du bleu aux yeux et du rouge aux lèvres.
Ah, c'est moi ça.
Pourquoi pas l'inverse ? Mystère. C'est sans phare qu'elle nous fait sa chronique ce soir. Oh. Voici Caroline.
Elle était maquillée comme une star de ciné. Accoudée au jukebox.
Bien ton jingle, non ?
Un petit peu vieillissant, mais bon.
Bah, ça va avec ta tenue d'aujourd'hui.
C'est vintage.
C'est ça.
C'est old school. On aime ça. Bon, et oui, hein, oui, le make-up et la cosmétique sont inévitables de nos jours. Qu'ils soient dans la rue ou à la télévision, c'est pas moins, au final, d'une publicité sur trois. Et c'est beaucoup. Mais quelle est l'origine du maquillage et quels étaient les produits à avoir absolument à l'époque ? Eh bien, il y aurait quelques preuves du maquillage, ou plutôt du camouflage, à la préhistoire. Mais ce n'est pas confirmé. Donc, hypothèse, point d'interrogation, on passe.
Mais peut-être qu'avec le charbon, peut-être qu'il se grimait.
Exactement, avec des plantes, etc. Mais ça ressemblait plus à du camouflage que de l'embellissement.
Oui, donc, d'accord.
Voilà. Eh bien, l'origine remonte en fait à l'Égypte ancienne. Vers 3000 avant Jésus-Christ, période où le maquillage a réellement un objectif d'embellissement. Voilà, sur fond de vertu médicale. Donc, le produit à absolument avoir pour être fashion et stylé comme Cléopâtre en Égypte, c'était le koulo, le kohl. Le kohl, je la refais. Ouais, bah. Donc, fabriqué à base de suie ou de plomb, il aidait à protéger les yeux des rayons du soleil, des agressions du vent et du sable à la base, ainsi que les conjonctivites. Alors, il faut savoir que les Égyptiens étaient hyper pointus et calés au niveau de l'ophtalmologie.
Ouais, bah, sable dans les yeux, c'est pas...
Bah, le plomb, surtout.
Bah, le plomb, ouais, c'est un peu dangereux. Quand même.
Bah oui, un petit peu de saturnisme,
donc, voilà.
Comme ça.
Alors, c'était évidemment d'abord réservé à la noblesse, donc il y a beaucoup de représentations de Ramsès, Amenophis, nanana. Il permettait aussi de créer des longs yeux en amande. Et ça, c'était l'idée de beauté idéale de l'époque, pour hommes et pour femmes.
Ok, donc on prolongeait, c'est ça, les cils, comme on voit en fait dans les films sur les Égyptiens.
Voilà, exactement, ça allait quasi jusqu'à la tempe. Alors évidemment, il y avait des raisons aussi un petit peu de croyance, puisque l'œil d'Horus, l'œil Ouja, ça représentait, c'était dans leur croyance profonde, ça avait une vraie symbolique, donc en fait, l'œil a vraiment une importance dans la société égyptienne. C'est pour ça qu'aussi, on mettait l'accent dessus.
D'accord.
Voilà.
Mais pas la bouche avec le lipstick
Eh bien, si, un petit peu un aussi. Petit peu. Alors, les Égyptiennes, elles appliquaient également du fard au-dessus du col à base de plantes médicinales. Donc, le vert, c'était vraiment la teinte fard, c'était produit à partir de malachite broyée.
Bon, je ne sais pas ce que c'est que le malachite. Mais...
C'est une petite pierre qui est verte.
D'accord.
Bien broyée, du coup.
Et le vert, ça allait bien au teint. Parce que c'est
alors, pas forcément.
Oui, c'est ça, mais c'est pas la première couleur choisirait pour le teint.
C'était vraiment le truc de l'époque. C'était beau et en plus, ça faisait des reflets, donc voilà.
Va pour le vert.
Voilà. On trouvait ensuite du fard rouge à base de coquelicot ou d'ocre pour les lèvres et les joues. Et on pouvait même obtenir des teintes un peu plus violettes à base de fucus.
D'accord.
C'est une algue.
Mmh.
Enfin, le henné servait à colorer les ongles, donc c'était le début aussi des vernis, quelque part.
Ah oui.
Donc cette époque marque ainsi le début du blanchiment du visage, car les Égyptiens voulaient avoir le teint plus clair.
Sur la photo de profil, c'est ça ?
Exactement. Ils utilisaient du plâtre, de la craie et du carbonate de plomb, aussi appelé blanc de céruse, et qui finalement abîmait très fortement la peau,
bah,
puisque c'était très toxique. Donc
Est-ce que c'était déjà parce que les esclaves, eux, étaient au soleil et avaient une peau bronzée que pour s'en...
Il y avait cette notion-là, mais aussi la notion de changer sa couleur de peau, simplement passer à l'opposé, quoi.
D'accord.
Voilà.
Il n'y avait pas de raison autre ça ?
Non.
Religieuse ou non ? D'accord.
Non, non plus, non. Non, non.
Bah, esthétique.
En fait, à la base,
oui, après,
c'était
ça peut être esthétique, oui.
Et puis c'était aussi toujours en rapport avec un petit peu le soleil, en fait. C'était
d'accord,
une forme
la pureté,
de,
la blancheur,
de,
la
de protection, okay. Et puis voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également chez les Grecs et les Romains. Alors eux, les Grecs se maquillaient très peu, mais les Romains aimaient accentuer les sourcils au charbon. Donc ça donnait quelque chose de très blanc au niveau du visage et très noir au niveau des sourcils.
C'est pas cher comme... Ça, c'était
ça
pratique.
Va, ouais.
Oui.
Alors, c'était réservé quand même à l'élite. Par contre, le peuple essayait évidemment de reproduire le col et les maquillages, mais du coup, utilisait des produits qui étaient encore plus abrasifs. Donc, ils avaient des peaux qui étaient complètement ruinées avec des cratères et des trous.
Ah,
donc, la star de l'époque à la beauté éternelle, évidemment, c'est qui ? C'est Cléopâtre. Donc, Cléopâtre, dans sa petite trousse de make-up, elle avait quoi ? Son incontournable, c'était le carmin vif. Elle aimait avoir une bouche hyper rouge. Donc, elle faisait un petit mélange à base de cochenille mélangé avec des œufs de fourmis.
Wow.
Et évidemment, il fallait réparer sa peau si on pouvait, et éviter surtout les rides qui étaient très accentuées très tôt à cause de la chaleur. Donc elle faisait des masques à longue. C'est un médicament qui est une sorte de pâte qui laissait longtemps sur la peau pour réparer. Et évidemment, Cléopâtre, on la connaît pour ses bains au miel et au lait d'anès, qui sont toujours d'actualité hein, d'ailleurs.
Son savon aussi.
Et son savon.
Cléopâtre.
C'est la colle.
Ah, c'est la colle.
Et il lui fallait pas moins de 700 anès pour chaque bain quotidien.
Oh non.
Elle avait des petites exigences là-dessus.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Alors, par contre, le mythe de la beauté de Cléopâtre s'effondre complètement, désolé. Elle n'était pas vraiment brune, elle avait une perruque.
Ah bon ?
Oui, et les hommes aussi avaient des perruques à l'époque, toujours pour protéger du soleil. Alors, en fonction de sa classe sociale, il y avait des perruques qui étaient de plus ou moins bonne qualité. Mais les hommes comme les femmes portaient des perruques.
Avec des cheveux réels, j'imagine, à l'époque.
Avec du crin de cheval, ça dépendait en fait.
Ouais. Ah oui, on pouvait prendre du crin de cheval.
Il y avait un peu de tout en fait, oui.
Très chic.
Oui, c'est
très très chic.
Et enfin, elles n'avaient pas un joli petit nez comme les films le disent. En fait, le mythe a été créé principalement grâce au cinéma. Puisqu'en fait, elle n'était pas si jolie. Elle était jolie, mais sans plus. Elle était dans la norme des Égyptiennes. Et elle avait des origines grecques de Macédoine, donc elle serait plutôt châtain blonde, avec un grand nez,
d'accord,
au final. Elle était jolie, mais en fait, ce qui lui a donné plus son mythe, c'est surtout qu'elle avait une vie exceptionnelle et qu'elle a eu surtout une fin tragique.
Puis assez, assez dissolue aussi. Hein.
Oui, non, c'est ça. Alors, tout bêtement, oui, déjà, elle est grecque, parce qu'en fait, les Égyptiens, les rois égyptiens sont grecs à partir d'Alexandre le Grand. Ça, c'est super intéressant. C'est, en fait, c'est des consanguins de consanguins, c'est impressionnant.
C'est ça. Elle avait même du métissage européen.
Ouais, parce qu'en fait, à un moment, ils se sont dit, ouais, bon, avoir des enfants retardés, c'est peut-être pas le mieux.
Donc on mélange.
Voilà. Et ensuite, sur le plomb qui est utilisé dans le maquillage, c'est super intéressant parce que même au XIIe siècle, XIIIe siècle en France, t'as des reines de France, etc., qui mettent vraiment des maquillages, mais c'est
on le retrouve,
pour
ouais,
la santé. C'est...
Ouais. On le retrouve sous Louis XIV, etc. Le blanchiment de la peau, c'est toujours d'actualité. En fait, ça restera tout au long de l'histoire. Et s'abîmer la peau avec des produits hyper nocifs tout au
alors
long. En fait,
on
en dessous le maquillage, la peau était pourrie.
Et aujourd'hui, on met de l'autobronzant pour avoir une peau...
Et voilà, aujourd'hui, bronzée. C'est le contraire, ouais.
Ok.
Voilà. Ah non, j'ai pas fini parce que j'avais une petite citation, c'est vrai, j'ai oublié.
Alors,
il y avait un petit philosophe qui disait « Une femme sans peinture est une nourriture sans sel ». C'est Plaute qui disait ça à l'époque. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
Bah ouais, non,
c'était
on en fait
peut-être un gros misogyne.
Bon, naturel, c'est très beau
aussi.
Comparer
la femme à la bouffe, c'est pas terrible.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas top. Hein.
Merci, Plaute.
C'est ça. Merci, Caroline.
Il a nom de bière, en plus.
Alors, on te retrouve aussi dans le podcast Caro in the City, sur le site de Radio G, dans l'émission Topette, hein, sur cette même antenne.
Exactement.
Sans transition, est-ce que vous savez ce qu'est un film jaune ?
Je crains le pire.
Coréen.
Film jaune.
Je crois.
Ah.
Je crois.
Alors, je suis pas sûr en tout cas que vous ayez envie de tourner dans un film jaune. En tout cas, c'est une question. Ah bon. Alors, c'est une question d'auditeur et justement, le Graal va y répondre.
Question de Jackie. Tu veux faire un film jaune ?
Bien essayé, Jackie. Mais le Graal ne se fait pas avoir facilement. N'empêche que ça va nous permettre de parler en couleur. Quelle belle couleur, le jaune. C'est celle du soleil, de la joie, de la bonne humeur. Du moins pour les Français. En Allemagne, c'est la couleur de la jalousie. Bon, remarque, chez nous aussi un petit peu, hein. On dit jaune cocu. Mais en Égypte, le jaune est synonyme de chance. Cette chance est représentée par le rouge en Chine, pays où le blanc est le symbole de la tristesse et du deuil. Le noir est la base associée aux formalités, à l'illégalité et même à l'eau. Pour en revenir à ta question, Jackie, un film jaune est un film pornographique pour les Chinois. C'est d'autant plus étonnant que jusqu'au début du XXe siècle, cette couleur était réservée à l'empereur et que seul lui avait le droit d'en porter. En tout cas, non Jackie, je ne veux pas faire de film jaune. Mais bonjour à Michel.
Ah bon. Eh oui. Eh oui, c'est un film pornographique, un film jaune, voilà.
Je pensais que c'était référence aux slashers américains qui sont tirés de la librairie.
Machin. Bah non, tu vois. En tout cas, c'était le Graal. À retrouver donc dans les podcasts plus de radio-g.fr et tous les soirs dans Topette avec Pierre Benoît. Vous êtes toujours dans CMA. Dans un instant, on va découvrir la saga d'un jeu vidéo qui va à toute vitesse. Mais maintenant, ce sont les bonnes feuilles de l'émission. Qu'ils soient toilettes, crépons ou mâchés, restons à la page avec une chronique qui tient sur un papier de cigarette. Voici un sujet bien écrit. Par Florian.
Laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs vous réchauffer.
Un petit Régine avant l'été, hein ?
Il a 4 pages.
Il a écrit 4 pages, mais c'est une petite page.
Heureusement que je n'ai pas listé effectivement tous les types de papier, parce que je me doutais que...
Que j'allais le dire, j'en ai
dit
que 3.
Allait être à peu près ça, et effectivement, t'allais en placer quelques-uns. Et ben le papier, voilà, je vais vous parler du papier, hein, c'est pas de secret.
Ouais, yeah. Ouais.
Alors, le papier remonterait à 2000 ans.
Avant Jésus-Christ ?
Non, à 2000 ans.
À 2000 ans.
Il y a 2000 ans.
À zéro.
Il y a 2000 ans ? Ou à 2000 ans après Jésus ?
Alors, donc, oui, aux alentours de zéro.
En l'an 22. En 2022 ans, donc.
Non, mais oui.
Si tu veux. Autour du premier siècle.
Jésus. C'est Jésus qui a fait le premier rouleau.
Si tu veux, allez.
Ça, 2000 ans.
Non, parce qu'il n'avait pas encore de papier.
Il n'est pas né en zéro, Jésus. Il n'est pas né en...
Ah oui, donc un peu.
Et donc, à votre avis, mais je pense que c'est assez connu, d'où viendrait le papier à l'origine ? Qui a inventé le papier ?
Bah, je sais pas. Moi, j'ai le papyrus. Les Égyptiens. Ouais, le papyrus, ou des trucs comme ça.
Les Égyptiens, oui.
Les Russes,
oui. Les Chinois.
Les Russes.
Alors, les Chinois, effectivement, c'est...
Les papyrus. Les papyrus, oui.
C'est petit, mais qu'est-ce que
c'est ? C'est plutôt connu que ce serait les... Voilà, que c'est les Chinois qui inventent le papier.
Ah, d'accord.
Avec les fibres végétales. Donc, ce serait un certain Kai Lun. Ou Kai Kun, j'en sais rien.
Ouais.
Donc, c'est un eunuque. Un eunuque de la cour impériale des empereurs Han.
D'accord.
Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. En Han. Alors, c'est un haut fonctionnaire, hein.
Ah, il y a des eunuques hauts fonctionnaires.
Ben oui. Qui, au IIe siècle, donc là pour le coup, au IIe siècle après Jésus-Christ, aurait trouvé une façon de faire du papier avec des fibres végétales. Voilà. Mais en fait, l'archéologie atteste aujourd'hui qu'en fait, on avait déjà du papier au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Ah.
Donc en fait, c'est pas du tout cette eunuque-là qui a inventé le papier.
Mais la feuille pesait 10 kilos et était en pierre, non ?
Alors oui, effectivement, avant, on écrivait sur des tablettes, sur les pierres et... voilà, donc à la base, c'est d'abord du papier à base d'écorce de mûrier, de lin ou de chanvre.
Mais on n'écrivait pas sur les peaux de bêtes à un moment donné ?
Alors ça, c'est le parchemin, effectivement, pendant
c'est
le
après.
Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge, nous, chez nous. Et effectivement, avant le papier, on écrivait sur des peaux de bêtes. Alors c'était des peaux d'animaux, donc soit de moutons, principalement du mouton, de la chèvre ou du veau.
Mais on peut pas appeler ça du papier. En fait, quand
non,
on dit
c'est
papier,
pas du papier, c'est du parchemin.
Papier, c'est forcément fait en fibre végétale. C'est ça ?
Presque. Okay. Oui, quand même. Mais vous allez voir après qu'il y a des petites...
Il y a des subtilités.
Il y a des petits trucs, voilà.
Okay.
Alors, donc le papier, ça part donc des Chinois, pour simplifier, puis ça se diffuse ensuite dans le monde arabe, puisqu'il y a des connexions entre le monde arabe et la Chine. D'ailleurs, les Arabes installent des papetiers chinois en Ouzbékistan aujourd'hui, au 8e siècle. Donc c'est des prisonniers de guerre chinois, en fait. Et ils leur disent, vous nous faites du papier maintenant.
Ah, c'est sympa. Ah oui, d'accord. Vous importez la technologie.
C'est ça. Et puis après, il y a une diffusion donc, dans le monde occidental qu'on connaît aujourd'hui, via l'Espagne, hein, parce que les Arabes arrivent en Espagne, via l'Italie. Et puis ça se développe. Donc c'est au 12e siècle, nous. Ça arrive en Europe, au 12e siècle, le papier. Et voilà, les techniques s'améliorent. Alors à la base, on faisait du papier de feuille en feuille, les feuilles qu'on connaît aujourd'hui, de feuille en feuille. Et après, on invente une machine qui fait du papier en continu. Donc on peut faire des rouleaux de papier.
Okay. Ensuite, mais pour l'instant, ça servait qu'à écrire le papier.
Oui.
C'était vraiment de l'écriture.
Oui. Et puis après, effectivement, aujourd'hui, le papier, il est utilisé pratiquement presque partout d'ailleurs, pour écrire et pour envelopper l'emballage. Le carton, c'est du papier.
Ouais. Du coup, l'encre a été inventée à peu près au même moment. C'était
avec l'imprimerie.
Mais l'encre même après. Pour écrire sur le papier, l'encre après. Pour se servir
l'encre
du papier.
L'encre de Chine, j'ai pas cherché. L'encre de Chine, c'est vieux aussi.
Le papier servait à quoi si tu pouvais pas
écrire? Disons que l'encre est arrivée avant le papier, puisque sur le parchemin, il fallait bien écrire avec l'encre. D'accord. L'encre aussi.
Okay.
Voilà. Alors, je vous ai parlé de fibres végétales pour le papier, mais en fait, pendant les Arabes en fait, font du papier à base de tissu. À base de chiffon, en fait. Donc
qui peut être une fibre végétale aussi.
C'est du rebut. Alors, en général, le tissu, c'est quand même une fibre végétale. Hein. C'est du lin, c'est du coton. Donc, tous les vieux chiffons et tous les vieux rebuts de tissu, en fait, ils en font. Donc, ils les écrasent. Ils en font une espèce de pâte et ça fait du papier. Au Moyen-Âge, c'est pareil. Le Moyen-Âge.
Donc, ils recyclent ça, en fait.
C'est ça. Donc, c'était déjà du recyclage à l'époque, puisqu'on recycle les vieux tissus pour faire le papier. Au Moyen-Âge, ce ne sont que du papier en tissu. Jusqu'au 19e siècle où finalement on fait du papier à base de pâte de bois, donc à base du bois directement à aller chercher le cellulose directement.
Mais alors les tissus ils étaient colorés, donc du coup il y a plein de tissus.
Oui, alors après il y a
couleurs.
Plein de techniques effectivement pour
les blanchir.
Pour retirer la couleur, les blanchir. Alors les produits sont là pour le coup pas très naturels, hein. C'est des produits chimiques en fait pour effacer toutes les couleurs et pour les blanchir. Encore aujourd'hui, hein, pour blanchir le papier, quand on fait du papier recyclé ou du papier journal. Il faut bien désancrer, en fait. Donc, il y a des produits chimiques qui...
Chlore, Javel, tout
qui,
ça.
Voilà, ouais. Qui effacent l'encre. Et qui refont du papier blanc ou du papier transparent aussi, puisqu'il existe le papier transparent. On verra après.
OK.
Alors, sinon, donc, je vous ai quand même promis de faire un rapport entre la rue de la Rame, la Montgolfière et les éléphants.
C'est ça. Ça, on ne comprenait pas.
Ça va arriver, ça va arriver. Alors, avec la rue de la Rame, déjà...
La rame de papier.
La rame de papier, voilà, c'est une unité de mesure. Ah, une unité de mesure par le papier. En fait, les ouvrières dans les salles de triage en fait, du papier, quand ils séchaient, en fait, ils comptaient les feuilles de papier avec leurs mains. Donc, ils mettaient 5 feuilles par doigt. Donc, un doigt, ça équivaut à 5 feuilles de papier. Mm-hmm. Une main, ça équivaut à 25 feuilles de papier. Mm-hmm. Et une rame, donc là, il n'y a aucune notion de corps. Une rame ou une ramette, c'est 500 feuilles de papier.
D'accord. C'était, voilà. Dès le départ, c'était comme ça.
Il y avait une paperie
Il y avait quoi
de l'arabe. Il y avait une fabrique de papier.
Où ça ici
l'arabe, oui.
Je sais pas si c'était un rame de papier, je pense pas.
Non.
Ça peut être n'importe quelle rame aussi, le bateau.
Oui. Alors, je vous ai parlé de la machine qui fait du papier en continu.
Oui.
Donc ça, c'est un Français qui a inventé cette machine-là.
Monsieur Sopalin.
Je ne sais pas son nom, mais on s'en fiche un peu. C'est perfectionné en Angleterre pendant la Révolution industrielle, puisque c'est un peu là, l'essor du papier arrive à ce moment-là. Hein. Mmh. Déjà à l'époque de l'imprimerie. Donc au 15e siècle, au tout départ, déjà il y a du papier qui arrive, mais au 19e siècle, c'est un peu l'essor du papier. Et il y a la famille Montgolfier, qui finalement, au 16e siècle, achète des moulins en Ardèche, enfin ce qui est aujourd'hui l'Ardèche, et ils font du papier.
Avant de s'envoler en ballon, ils font du papier.
Voilà. Et le lien, c'est que la première Montgolfière, donc, qui a été inventée par les frères Montgolfier, l'enveloppe de la Montgolfière, c'est du tissu qui a été fait dans les ateliers Montgolfier, donc dans les moulins de papier de la famille Montgolfier.
Voilà. Donc effectivement, un rapport.
Tout à fait.
T'avais ça, rame, et puis t'avais un troisième truc, c'était quoi ?
Avec les éléphants, mais les éléphants, ça viendra un petit
d'accord,
peu après.
D'accord, ok.
Mais j'en ai plus pour longtemps. Ensuite, Montgolfier, c'est un peu les précurseurs du papier en France, en fait, hein, parce qu'ils perfectionnent encore plus les choses pour la fabrication du papier. Et puis en 1798, il y a Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson.
Comment il va ?
Eh bien, très bien. J'ai encore vu hier.
Bah oui, mais les Canson, papier Canson.
Voilà, ce qui est important, c'est effectivement la fin de son nom, c'est Canson. Donc c'est lui l'héritier en fait de toute la famille Montgolfier, donc il récupère les moulins, et donc il continue la fabrique de papier normal, et aujourd'hui on connaît encore les papiers Canson.
Mm-hmm.
D'ailleurs, le logo du papier Canson, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une montgolfière stylisée.
Ah oui, c'est vrai.
C'est deux espèces c'est de trucs comme ça. Et en fait, ça fait
le globe de la montgolfière.
Ok.
On apprend des choses.
Tout à fait. Voilà.
L'éléphant.
Ça, c'était ça. Alors, l'éléphant. Pourquoi l'éléphant ? Parce qu'il y a plusieurs techniques donc, pour faire du papier. Je vous ai parlé de là. Donc, c'est du cellulose, des fibres végétales, soit le bois directement, le chanvre, le lin, les vieux tissus, mais aussi les excréments d'animaux.
J'y pensais. J'y pensais. Oui. Il va pas me faire ça.
En 1841, il y a monsieur Tripot qui dépose un brevet pour fabriquer du papier, je cite, à partir de la fiente de tous les animaux herbivores. Mmh.
Oh, bah, oui, parce que forcément,
comme ils mangent de l'herbe, il y a de la cellulose. Et donc, en prenant les excréments des animaux, herbivores, parce que sinon ça marche pas.
Bah ouais, tu fais un journal de merde, quoi.
C'est comme ça qu'on fait le PQ.
On fait du papier.
Non, c'est vrai. Il faudrait recycler comme ça, c'est vrai.
On recycle comme ça. D'ailleurs, au 19e siècle, il y avait une usine à Paris qui faisait du papier à base de crottin de cheval.
Oh, ah ouais.
Et en 1995, il y a le moulin de Brousse et Villeray dans l'Aude, qui produit du papier à partir de crottins des éléphants de la réserve africaine de Sijan, donc dans l'Aude à côté. Oui. Voilà. Donc de temps en temps, ils font du papier à base d'excréments des éléphants de la réserve.
Pas aujourd'hui maintenant.
Si, ils en font.
Bah, les éléphants, non, je pense. Enfin, si, encore, tu crois ?
Si. Dieu. Alors, c'est assez rare quand même de faire ça avec les excréments d'animaux.
En même temps, bah, quand même plus pratique avec un éléphant qu'avec un lapin, hein, parce qu'au niveau du papier, tu en produis quand même plus. Hein.
Effectivement.
Ils ont bien choisi l'animal.
Effectivement. Alors, aujourd'hui, quand même, le papier, il est fait à base de papier recyclé, parce que ça correspond à environ 66% de la production de papier aujourd'hui, c'est du papier recyclé. Voilà.
Très bien. Et papier transparent,
c'est... Alors, le papier transparent, donc c'est papier calque, en fait, et c'est aussi Canson qui a inventé le papier calque.
D'accord. Ah. Merci Florian. Restez bien avec nous dans quelques minutes. On joue ensemble autour des origines des séries télé. Et là, je suis sûr que voilà, vous êtes tous calés. Ça va être très facile. Mais il va falloir attendre un peu. Rassurez-vous, on se console avec celui qui a plus d'une cartouche dans son sac. Le Seigneur des Anneaux va les connecter à les collecter à une vitesse supersonique. Voici la chronique décoiffante de Mathias.
Eh ben, t'es en colère ? C'est moi, Maître Sega. Tu choisis Sonic, c'est parti. Sega, 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort.
Ouais, 16 bits, c'est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Qu'est-ce que tu peux répondre sur ce...
C'est ça,
je ne sais pas.
Du coup, apparemment, je vous ai parlé de Mario. Et à la suite du deuxième volet, je vais vous parler aujourd'hui de Sonic. Vous l'avez compris, hein, le petit hérisson bleu. Mm-hmm. Tout le monde connaît ?
Oui.
A priori,
non. Oui.
Bon, oui.
Bon, si.
Le film, c'est tout.
En anglais, Erger Dog, c'est ça ?
Ah, Hedgehog.
Hedgehog.
Voilà, ne me demande pas de parler anglais, s'il te plaît. Donc, ce petit hérisson bleu qui court très vite dans les niveaux où il doit partir du point A au point B en attrapant le maximum de rings, donc d'anneaux, et des bonus en chemin. Son histoire de départ est assez liée à celle de Mario puisqu'il a été créé en 91 pour servir de mascotte à Sega.
D'accord. Avant même d'être un jeu, c'était la mascotte ou en même temps quoi.
Ils allaient faire
un jeu qui correspond,
un jeu qui allait servir de mascotte à la console afin de rivaliser avec Nintendo qui avait Mario.
Un petit plombier, d'accord.
Voilà. Du coup, des recherches de mascotte avaient commencé dans le studio de Sega dès 1990. Plusieurs essais ont été tentés. Certains d'entre eux seront d'ailleurs des personnages secondaires du jeu. Mais c'est un hérisson qui va finalement devenir l'image de la console. Et vous savez pourquoi il sera bleu ?
Alors, je ne sais pas.
Pour faire
parce
contraire
que son
de
créateur
rouge.
Aimait le bleu, tout ça.
Ouais. Ça aurait pu être ça. C'est parce que le logo Sega était bleu.
Ah oui.
C'était pour rappeler le logo.
D'accord. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui sache que c'est un hérisson, en fait. À l'époque, c'était un personnage, mais moi, je n'avais pas du tout fait le rapprochement avec hérisson.
Sauf si tu as joué au premier jeu.
Ouais, le premier jeu, c'était Sonic the Hedgehog.
Oui, mais Hedgehog, je ne savais pas ce que c'était non plus à l'époque. Donc, voilà.
Ouais. C'est vrai.
Physiquement, on voit pas trop que c'est un hérisson, quoi. Il a une petite crête, mais enfin, il a une petite crête, mais il a pas trop de piques.
Piques, ouais.
Ouais. Bon, bref. Maintenant, on sait que c'est un hérisson, en tout cas.
Non, mais c'est vrai que j'ai regardé les dessins. C'est une boule, quoi. Enfin, ouais. C'est voilà.
Oui, en plus. Ouais.
Du coup, dans l'histoire du jeu, Sonic est à la base marron. Donc bon, c'est une boule marron.
Bah oui, hérisson.
Et il devient bleu à la suite d'une expérience en dépassant la vitesse de la lumière.
Bah oui, il s'est pris un mur, là, boum, tout bleu.
Voilà. Quoi. Du coup, j'ai regardé les... il y a très peu d'images, hein, mais effectivement, à la base, il était marron. Et,
Donc, ils ont fait une histoire pour expliquer pourquoi il est bleu.
Oui, c'est marrant, ça.
Pourquoi pas.
Pour plaire au marché américain et contraster avec Mario, Sonic se donne une image jeune, rapide et légèrement arrogante. Il sort sur Mega Drive en 91, mais sa toute première apparition dans le monde du jeu vidéo s'est faite en salle d'arcade, peu avant la même année, dans Rad Mobile, que je ne connais pas du coup. C'est un jeu de course automobile dans lequel Sonic, sous forme de porte-clés désodorisant, était suspendu à un rétroviseur. Ah ouais, commencé à placer un peu le personnage.
Super, ouais.
Voilà.
Bon. Déjà le multivers.
Déjà.
En fait, il a qu'à bien se tenir.
Mais il voulait surtout vendre peut-être des produits dérivés à côté, et c'était pratique.
Ouais,
puis c'est déjà un easter egg, mais on avance.
Un easter egg, ouais. Oui, aussi.
Je pense qu'ils avaient déjà l'idée, commençaient un peu à le placer pour le faire connaître aussi. Et, à la base, le personnage de Sonic devait faire partie d'un groupe de rock et il devait avoir une petite amie qui s'appelait Madonna.
Oh, oh là.
Très bien.
Elle a décliné l'invitation. Non,
elle n'a pas voulu.
Bah, en fait, l'équipe qui travaillait pour Sonic ont préféré alléger son histoire et enlever du coup ces éléments.
C'est sûr que Madonna, c'est assez lourd.
Mais voilà, ils voulaient vraiment lui donner une image un peu rock'n'roll. Voilà.
Mais je crois qu'on a un dessin animé des années 90 justement avec Sonic et toute sa bande d'amis là, et t'en as notamment des métalleux un peu, enfin des rockers plutôt. Hein.
Ah bah c'est complètement possible.
Les génériques, les génériques étaient très rock. Hein. Ouais. Très rock.
Bon après, les dessins animés Sonic, ça, c'était pas trop ça, je crois.
Du coup, les apparences de Sonic ont pas mal d'évolutions. À la base, il était plus petit, donc comme on disait, plutôt en boule, des petites épines, et on voyait pas vraiment ses iris. Il avait des yeux, c'était des yeux noirs. Et avec le temps, il s'est allongé, ses jambes sont devenues plus grandes, ses piquants retombant, et il a des yeux verts qui sont apparus. Un peu comme les bébés qui sont tout potelés, puis qui grandissent, et puis qui s'allongent. Et,
c'est un Pokémon qui a fait une évolution.
C'est
quoi.
Ça. D'accord. Du coup, et j'ai regardé, effectivement, c'est assez impressionnant, le petit boudin. Là,
petit boudin. Petit boudin.
Alors, j'ai compté en tout 38 jeux Sonic.
Ah oui, quand même.
Ouais. Ouais, c'est assez hallucinant. Ouais. Sans compter les spin-offs et les apparitions dans les jeux extérieurs. Parce qu'après, il y a d'autres jeux aussi.
D'accord.
Oui, mélange un peu les personnages.
Ouais, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, ce genre de truc, oui, je pense pas que ça compte.
Ah, bah c'est après, une fois que. Oui, Mario, c'est vrai qu'il s'est associé à Sonic avec le rachat, effectivement, de la franchise. Ouais.
Et ben, justement, donc j'ai voulu voir sur quelle console c'était. Et c'est sur toutes les consoles.
Maintenant, oui.
Sauf Xbox.
Ah oui,
pas Microsoft. Clairement, non. Voilà, c'est les seuls que... Mais sinon, c'est partout, même sur téléphone, sur ordinateur, chez Nintendo, chez PlayStation, enfin vraiment, partout. Du coup, comme j'ai mentionné, eh ben, il y a eu un film qui est sorti en 2020. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Surtout vu l'affiche qui était pas très très... Avec un Sonic pas très très joli, je crois.
Ouais. Ben, j'allais y venir, justement. Et le premier film, en fait, il y a eu une première bande-annonce qui est sortie... que moi je n'avais pas vu à l'époque, où il ressemble pas du tout au Sonic. Il fait hérisson un peu réaliste avec des petits yeux, le petit nez pointu, des petites mains, enfin les mains blanches. Par contre, ils ont respecté le côté les mains blanches. Ouais. Comme
mais il était très très poilu quoi.
Il était très poilu. Bah, en fait, il faisait vraiment animal un peu trop réaliste, pas assez jeu vidéo.
D'accord.
Ça faisait un peu malaisant. C'est vrai que j'ai regardé. Oui, un peu. Et du coup, ils ont dû tout refaire. Toutes les scènes, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait la bande-annonce, les gens se sont plaints.
Bah, le film était déjà fait, et les gens ont dit... Et je les comprends, je ne l'avais pas vu, mais quand j'avais vu la première bande-annonce, qui est très difficile à trouver au passage, effectivement, jamais j'aurais été le voir si ça ressemblait à ça. Enfin,
donc il a fallu tout refaire. Ah, ça, du coup,
ils ont eu tout refaire, et ça tombe bien, parce qu'ils ont aussi changé son doubleur, je ne sais plus qui c'est maintenant, mais ça, il est beaucoup plus dans l'image que vous voulez au début. Justement,
au niveau des gars,
il a un côté rock'n'roll, assez rigolo, un peu désinvolte, un peu voilà. Et là, il y a le deuxième film qui est sorti que je n'ai pas encore vu. Et j'ai aussi découvert, du coup, dans mes recherches, deux séries animées de Sonic. Il y en a une qui est sortie dans le début des années 2000, où suite à un accident, il apparaît en fait dans le monde des humains.
Non, pardon.
Et il doit chercher les fameux diamants.
Mais
j'ai regardé et je me suis surpris avant de regarder la première la moitié saison.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Ouais franchement.
Moi, j'ai bien aimé.
Et alors du coup j'ai fait un bond de 10 ans en avant en ce qu'ils ont fait Sonic Boom. Je me suis dit en 3D vraiment les images
mais moins bien.
Mais c'est d'un nul. Ah. Mais il se passe rien, c'est vraiment bête. Enfin c'est j'ai pas compris le comme
d'accord.
Quoi, le changement ça pas toujours du bon.
Oui, c'était mieux avant.
Ouais, là c'était vraiment mieux avant.
D'accord.
Pas sûr d'être vieux.
Alors oui, il est un peu perdu, effectivement. Que ce soit Florian ou Olivier, ils sont perdus là-dessus.
J'ai jamais regardé Sonic.
Non,
tu connais pas du tout. J'ai loupé le...
J'ai adoré, moi, Sonic.
Ah, Sonic, c'était les moments extrêmement flippants et angoissants quand on est dans les niveaux sous l'eau ou avec la musique ultra angoissante.
Oui, il fallait très très vite.
C'était génial.
Bon, ok, très bien. Allez, je te remets un petit peu de ton jingle.
Oui, parce que j'adore.
Eh ben, t'es en colère, c'est Speed, c'est plus fort que toi.
Voilà.
Méga plus fort.
Ok. Bon, allez, il est temps de jouer maintenant avec les séries télé et les origines. Ce sont nos madeleines de Proust, car tout comme ces petits gâteaux, on s'en est gavé depuis notre tendre jeunesse. Si la musique d'un film n'est entendue qu'une fois, les génériques de séries, au début et à la fin de chaque épisode, rentrent de force dans la tête. On va visiter plusieurs décennies de séries américaines ensemble, et c'est très simple, hein, vous allez, on va écouter le générique, et on laisse un petit peu de temps aux auditeurs quand même pour trouver, hein, et puis on donne le résultat. On commence tout de suite, si on laisse un peu de temps, on commence tout de suite par une série américaine des années 60.
Ah, oh, bah.
On attend. Ah, vous êtes pas tout jeune quand même, parce que donc ça date des années 60 quand même. Alors c'est quoi, vas-y Caro, dans le micro Caro.
C'était la famille Adams.
La famille Adams, effectivement.
Ouais, mais après le générique a été, enfin cette musique est iconique et ça a été, ça a été repris dans tous les.
J'avais pas eu de penser à ça.
Ah, t'avais pas pensé à Family Dance ? Autre chose.
Non, je pensais que c'était ma sorcière bien aimée.
Ah oui.
J'étais surpris qu'ils connaissent.
C'est la même époque, mais.
C'est marrant, j'ai pensé à ça aussi.
Ah ouais ?
Et puis ma sorcière bien aimée a été rediffusée aussi il n'y a pas très longtemps. Ma petite sœur l'a regardé ça il n'y a pas très longtemps.
C'est bien ça.
En tout cas, la Family Dance, c'est une série qui date de 1964. Il y a eu deux saisons, soit 65 épisodes de 26 minutes. C'est l'histoire d'une famille qui se veut normale, mais qui ne l'est pas vraiment, vu que ce sont des sorciers et des monstres qui ont beaucoup de mal à s'intégrer. En fait, il fallait 2 heures de maquillage tous les matins pour préparer le rôle de Morticia, donc pas mal de temps. La chose, vous savez, la chose, c'était la main,
c'était le main
qui se promenait. Et bien c'était une main droitière en fait, sauf que celui qui jouait, ben, de temps en temps il prenait la main gauche juste pour voir si le réalisateur s'en rendait compte, et en fait il se rend pas compte. Donc du coup dans les séries, quelquefois c'est la main gauche, des fois c'est la main droite. Ben oui, on s'amuse comme on peut. Cette série donc, elle vient d'une BD de 1932, donc c'est pas tout jeune. Et elle a été aussi en dessin animé en 73, puis en 91, 93 et 98 dans 3 longs métrages. Voilà, c'est pour ça qu'on connaît, même nous qui ne sommes pas de cette époque-là, on connaît cette série. Oh, une série des années 70.
Ah oui.
Oui. Ah bah oui.
Ah bah oui, c'est parti. Hein, allez. Ah, même Robin connaît.
En même temps, oui, je pense qu'M6 le diffuse encore d'ailleurs.
Ça sent bon la nature.
Alors, c'était. Voilà, vas-y.
La petite maison dans la prairie.
Effectivement, c'est La petite maison dans la prairie qui date de 1974. Sa première diffusion s'est étalée jusqu'en 1983. Il y a près de 40 ans, donc, avec 209 épisodes. Ça en fait du bois coupé. En fait, c'est juste après le succès de la série Bonanza, où on voyait déjà l'acteur Michael London, qui sera le futur Monsieur Ingalls, que les producteurs ont fait un téléfilm basé sur un best-seller de 1932 qui s'appelait Little House. Et comme ça a cartonné, ben c'était parti pour 9 ans de gamelle dans la prairie pour la petite fille de la famille. Et d'ailleurs, cette gamelle n'était pas prévue. Voilà, elle s'est vraiment cassée la figure.
En même temps, ça se voit. Ça se voit que.
Alors, c'était vraiment la première méchante. Moi, ça s'appelait la.
Ah oui.
C'était vraiment la.
Nelly Olson.
Oui,
Nelly Olson. Ah oui. Ah non, sur la mère, j'ai trouvé immonde.
Ah ouais.
Le micro.
C'est vrai.
Ça rappelle des souvenirs, dites donc. Alors, la maison, elle a été brûlée à la fin de la série.
Ah bon?
Eh oui,
ah
oui.
Ouais.
Et en 1982, ils ont essayé de relancer une franchise dans une autre maison, mais le public n'a pas du tout accroché.
Ah,
voilà. Ouais. Alors les enfants, parce qu'il y avait pas mal d'enfants jeunes quand même, ils allaient à l'école encore. Eh bien, on les faisait sécher les cours pour chaque prise. Et hop, juste la prise faite, ils retournaient à l'école. Donc sympathique. Et il y avait également des scènes qui étaient dans des écoles, dans une école, dans le village. Eh bien, les cours qui étaient donnés, c'était les mêmes que dans leur propre école, pour qu'ils ne perdent pas de temps.
Wow.
Alors, on pensait vraiment à tout. Il faut dire qu'il y a quand même 209 épisodes, il fallait vraiment s'organiser quand même aussi. La journée commençait quand même à 4h du matin, même pour les enfants, donc c'était pas facile, Allez, maintenant on arrive...
Ça a rendu tendance les chemises de bûcheron, par contre.
Oui, c'est ça. Voilà, on a coupé du bois, ça. On continue avec une série américaine des années 80. Ah. Alors bah vas-y Caro si tu l'as.
L'agence Tourisque.
Oui, l'agence Tourisque.
Ah ça c'était bien. Ça.
Ouais. Alors. Ah ah, ça commence à être son époque, ça c'est bien. Donc l'agence Tourisque ça date de 1983. Il y a 98 épisodes sur 5 saisons. Donc c'est une série de mecs avec des mecs. Hein. Voilà, voilà. Donc il y a bien une petite journaliste à un moment donné, mais ils l'ont ripé au bout de la troisième épisode. Voilà, pour que les plans se déroulent sans accroc, puisque c'était ce qui était dit à chaque fin d'épisode. Alors si la série a été aimée par le public, les professionnels ils ont pas trop aimé, il n'y a pas eu de récompense, si ce n'est quelques nominations, mais juste pour le meilleur son, donc vraiment c'était assez boudé.
Même Mr. T ?
Même Mr. T, non. Alors en tout cas, le créateur de la série n'en était pas à sa première, parce qu'il avait fait déjà 21 Jump Street, il avait fait Un flic dans la mafia, enfin plein d'autres, plein de saisons.
Oui.
Et malgré toutes les explosions, c'est quand même une série qui est très gentille, puisqu'il n'y a eu que 5 morts sur les 98 épisodes. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein, ils ont que 5, voilà, pas beaucoup.
Les figurants n'étant pas des êtres humains, on
n'oublie
pas.
Oui, bien sûr. Et si vous voulez vraiment toutes les infos, bien les bijoux portés par Mr. T pesaient de 16 à 18 kilos. Ouais. Vous savez, il avait toute une breloque, etc. Donc heureusement qu'il était costaud quand même, le pépère. Hein.
Et je crois que Mr. T, l'acteur, a aussi tourné dans des films porno. Alors, ah, allez savoir pourquoi, mais
pas
je...
que ces chaînes qui sont
comme
énormes,
quoi, on n'a pas tous les mêmes cultures. Voilà, on n'a pas tous la même culture. On va peut-être passer aux années 90, du coup, hein, avec une série qui a duré 10 ans.
Aussi, ça y est, j'ai.
Oui.
Voilà. Je vois, il bat des ailes. Alors vas-y.
Target SG1.
C'est ça, oui.
Ah ouais, ah bah alors là, oui. Là.
Diffusé entre 97 et 2007, c'est pas moins de 216 épisodes qui ont marqué notre jeunesse. Cette série est créée d'après le film Stargate, la porte des étoiles de 1994.
Que j'ai vu aussi.
Voilà, il y a même deux acteurs du film qui jouent dans la série, mais les auteurs du film n'ont pas voulu s'associer à la version télé ni même apparaître dans le générique.
Quelle série, l'Atlantis?
Oui, oui, après, oui. Donc Olivier nous parlera de caméo dans un instant, et justement, le réalisateur de Stargate SG-1 apparaît plusieurs fois en figurant dans la série. Et la base secrète de SG-1 existe vraiment dans une montagne du Colorado, c'est une base militaire. Voilà, c'est la série américaine qui a été diffusée le plus au monde sans interruption, devant X-Files. Mais si on prend tout le monde entier, c'est derrière Doctor Who quand même qui a eu plus de diffusion.
Ah ouais,
mais Doctor Who, c'est Doctor Who.
On passe maintenant, attention.
Et d'ailleurs, il y avait l'acteur de MacGyver dedans, non?
Bien sûr, Richard Dean Anderson.
C'est ça. Ah, oui. C'est okay. Fou.
On est maintenant dans les années 2000. C'est très court. Hein.
C'est 24 heures.
Oui, c'est ça. 24 heures, une série en 2001 qui a renouvelé complètement le genre des séries, puisque pour la première fois, c'est une série qui se déroulait en temps réel. Oui, c'est-à-dire elle dure 24 heures et 24 heures de la vie du héros pour sauver
dormir,
la planète.
On ne voit jamais aller aux toilettes, on ne voit jamais manger.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
dans aucun film et série, on les voit aux toilettes en même temps.
Enfin, ça dépend ce que... d'ailleurs, les acteurs devaient passer chez le coiffeur tous les 5 jours, car le tournage tournait plusieurs mois, mais il était censé durer 24 heures. Donc il y a tout un travail qui était fait là-dessus. Il y a eu 9 saisons où Jack Bauer sauvait le monde en 24 heures. Mais pour la première saison, la fin devait rester vraiment top secrète. Et ainsi, 3 fins ont été tournées pour brouiller les pistes. Donc la diffusion de cette première saison a été en plus différée, puisque suite au 11 septembre 2001, voilà, ça faisait un peu désordre vu qu'il y avait un avion qui explosait. Donc voilà, on a coupé quelques scènes au montage. Allez, on se fait un petit dernier. Maintenant, nous sommes dans les années 2010. C'est pour toi, ça.
Oui, oui, oui.
Oh. Ah, attends,
on va laisser Robin, on va laisser Robin.
Ah oui,
Robin.
Si, je sais, oui, si, je sais. Même si c'est sur Netflix.
Ah, oui.
C'est avec des gamins.
Ça fait peur, ça fait peur.
Oui, ça y est, j'en ai
vu. Ah, ça fait peur.
Ouais, c'est 13 années.
Bon. Samuel.
C'est plus de...
Non, c'est pas Elite.
C'est pas Elite.
Oh,
ah non, c'est pas
Elite. Stranger Things.
Stranger Things. Ouais.
Ah, mais oui.
Et puis Elite, c'est pas dans les années 2010, c'est plus tard. Voilà, Stranger Things. Stranger Things.
Ah, mais moi j'étais sur Samuel, moi.
Ah non.
Samuel.
Ça date de 2005.
Ça ressemble un petit peu.
Oui, ça ressemble un peu. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est une série Netflix, hein, ça se ressemble. Hein. Donc, série fantastique aux allures d'années 80. Hein. Il y a eu 5 saisons, il y a encore des saisons actuelles, 42 épisodes au compteur pour cette série phare. Les héros sont tous des ados, ça pose quelques problèmes en post-production, puisque par exemple, vous savez, des fois on réenregistre en post-production les dialogues, sauf qu'il y en a un des deux qui a mué tellement qu'on n'a pas pu, donc ils ont gardé les prises originales pour ça. Voilà, cette série est truffée de clins d'œil à Steven Spielberg et Stephen King. Par exemple, les vêtements et les véhicules sont les répliques exactes de ceux utilisés dans le film Des Dents de la Mer. Voilà, faut le savoir. L'histoire s'inspire également d'un programme expérimental illégal réalisé entre 1953 et 1973, le projet MK Ultra visant à affaiblir la volonté humaine pour obtenir des aveux. Donc voilà, ils se sont inspirés de ça pour créer la série, et c'est vrai, ça fait un petit peu peur. Voilà, on a parcouru ensemble quelques décennies de séries qui sont maintenant à l'origine de nos propres souvenirs d'enfance. Vous êtes dans CMA, l'émission qui revient justement sur les origines des choses, et il est maintenant temps de découvrir le sommaire de la deuxième partie de l'émission. Il apparaît dans l'émission, comme ça, caché derrière son micro. À nous de le repérer. C'est Olivier, bonsoir. De quoi nous parles-tu ce soir ?
Je vais vous parler de Caméo.
C'est un chanteur ?
C'est pas un rappeur.
Ah bah, d'accord.
C'est Caméo. Est-ce que vous savez ce que c'est un caméo dans un film ?
Eh bien, on va savoir ça tout à l'heure. Ah. Ok. C'est gros. Tous les chemins mènent à Robin. Oui, je sais, on dit tous les chemins mènent au Rome, mais je voulais pas lui spoiler sa chronique. Bonsoir, Robin. Quel est ton sujet ?
Bonsoir. Eh bien, moi, justement, je vais vous parler de Trois-Rivières, de Sainte... Merde.
Ah, c'est ça. Tu peux écrire ta chronique maintenant si tu veux. Hein.
Non,
t'as le temps, il y a d'abord une chronique avant.
Mon Dieu, j'avais pas sous les yeux. De Sainte-Gemme, pardon, oui, de Trois-Rivières, donc d'autres noms que vous connaissez sûrement. Alors j'aurais bien aimé du coup vous faire la surprise, peut-être de Guadeloupe, Martinique, tout ça. Non, mais oui, je suis un alcoolique, je pense. Ça doit se voir, les jeunesses, tout ça.
Je parle du Rhum.
Ah, tu parles du Rhum. Bah, voilà, oui, bah, il faut le dire. D'accord.
Pardon,
okay.
Pardon.
Très bien. Beau programme. On répondra aussi à la question d'une auditrice qui nous a demandé d'où vient la pêche Melba. Et on en salue d'avance. Il est donc temps de commencer la deuxième partie de CMA. Il est parfois frustrant d'être derrière la caméra ou même juste l'auteur d'une histoire portée à l'écran. Tout le monde a le droit d'être un peu dans la lumière. Et pour ça, Olivier a la solution. Voici la chronique cinéma. Non, c'est pas vintage.
Oui,
en plus,
oui,
c'est la dernière version.
Jean Mineur.
Mediavision, c'est la dernière version.
0, 0, 0.
Alors non, ils donnent plus.
Ah, ils font plus ça.
Non, oh, non, non, on a déjà aussi. Non, ouais, ils font plus.
C'était bien.
Oui, je voulais vous parler des caméos au cinéma. Donc les caméos, ça vient de camé, ça, le camé.
Le drogué.
Non, mais le camé au niveau de la romantique là, vous voyez, c'est ces petites médailles là où on voit la tête d'un personnage, quoi.
Ah,
et en fait, d'accord. C'est ça, c'est le caméo, c'est dans le monde du théâtre et du cinéma, c'est l'apparition fugace d'une personne. Alors ça peut être une personne célèbre, un acteur célèbre par exemple, une actrice célèbre, ou ça peut être aussi une personne membre de l'équipe du tournage qui apparaît comme ça dans le film. Mm-hmm. Caméo, c'est souvent un clin d'œil, et la personne n'est généralement pas créditée, on ne sait pas qu'elle va...
Ah, qu'elle va apparaître.
C'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Même dans le générique, des fois, on ne sait pas à la fin même que, voilà, qu'il a participé au film. C'est pas non plus une participation exceptionnelle, où là, c'est plus un rôle parlant. Des fois, on voit avec la participation exceptionnelle de Tom Cruise, par exemple.
Ouais. Mais ça, c'est pas un caméo, ça.
Un caméo, c'est vraiment très fugace. C'est un passage éclair, une vedette éclair, par exemple. C'est pas nouveau. Hein. Déjà, sous la Renaissance italienne, il y avait beaucoup de peintres qui inséraient leur autoportrait dans une de leurs fresques.
Ah ouais.
Notamment Botticelli ou Filippo Lippi. C'est souvent des tableaux plutôt religieux. L'adoration des mages, par exemple, de Botticelli, on le voit qu'apparaît. L'idée, c'était de retrouver son autoportrait dans ses peintures. En BD, il y a eu aussi beaucoup, des fois on voyait dans Astérix, il y a Uderzo et Goscinny qui apparaissaient. Mm-hmm. Puis aussi dans Tintin, des fois on avait l'apparition de, alors j'ai plus le nom, mais celui qui avait fait Black et Mortimer.
Non, c'était Hergé, non.
Ah non.
Non, Hergé, oui, Hergé. Ah oui, s'il apparaît aussi dans Tintin, de temps en temps. Oui. Au cinéma, alors je vous mets à culpa. Il y a 15 jours, je vous avais parlé des Easter Eggs avec Alfred Hitchcock.
Oui, ce ne sont pas des caméos.
C'est plus un caméo, en fait, Alfred Hitchcock, parce que c'était un passage éclair d'une personne du film. Donc Alfred Hitchcock, il apparaît dans 31 de ses films. Il y a une apparition d'Alfred Hitchcock.
Tous ses films ou alors pas tous alors
Quasiment tous ses films.
Il y a encore quelques-uns qui ne passent pas, d'accord.
Alors en fait, c'est un petit jeu pour lui, mais avant, au début du cinéma, par exemple, Méliès et puis les Frères Lumière, eux aussi participaient, faisaient des caméos dans leurs films. Mais là, c'était plus en raison qu'il y avait un manque de figurants et qu'ils étaient obligés de jouer dans leurs films. Mais c'était un petit clin d'œil. Donc Alfred Hitchcock, on a parlé de Stanley Tarantino il y a 15 jours, mais il y a surtout aussi, par exemple, Cédric Clapiche. qui apparaît souvent dans ces films, je ne savais pas. Mais
ah oui.
C'est vrai que dans les films, dans Encore, on le voit à un moment donné, qui, dans un film, qui fait une apparition. Il y a aussi dans tous les films de Night Shyamalan, on le voit dans tous les films. Celui qui a fait Sixième Sens.
Ah ouais bon, après, on ne voit pas trop sa tête. Donc,
ah bah si, c'est enfin, il est plutôt de nationalité indienne, quoi, oui. Donc c'est plutôt un indien. Mm. Et puis Martin Scorsese aussi apparaît souvent dans ses films. Alors c'est marrant parce qu'il y a aussi des fois des personnalités qui interviennent dans leur propre biopic. Par exemple, dans Erin Brockovich, le film sur Julia Roberts, il y a elle-même, Erin Brockovich, la vraie Erin Brockovich, qui apparaît en tant que serveuse qui sert Julia Roberts.
D'accord. C'est marrant. Est-ce qu'il y a eu ça dans Elton John ou dans... Non, il n'y a pas eu ça.
Non,
je ne me souviens pas l'avoir vu. Pourtant, il a joué dans quelques films.
Et souvent, il y a même souvent ceux qui ont fait la bande originale du film, ils interviennent aussi en caméo dans le film. Par exemple, dans Tron l'Héritage, c'est un film dont la musique était faite par Tron l'Héritage. C'est Daft Punk qui avait fait la musique.
C'est moins glamour déjà.
Tron.
Tron l'Héritage.
Les Trons l'Héritage.
Ah, mais les Trons, moi. Bah les Daft Punk, on les voit dans le film, on les voit dans Tron, l'Héritage.
Ah, d'accord,
ouais,
ils
apparaissent,
ouais. Scène,
ah ouais.
Ils apparaissent en DJ, exactement.
Que des pieds dans ce film.
Et même dans le retour vers le futur, à un moment donné, quand ils sont dans la salle de spectacle, où ils font des concerts, il y a Huey Lewis, le chanteur, qui apparaît en tant que juré.
Et c'est lui qui a fait la BO.
Et c'est lui qui a fait la BO, Power of Love, je crois, un truc comme ça, qui a fait la BO de Retour vers le futur.
Bah dans Mamma Mia aussi, du coup, on peut dire ça. Parce que dans Mamma Mia, c'est pareil, il y a Abba qui apparaît. Chaque fois, il apparaît.
Bon
oui.
Ah bon.
Ben oui, on a les musiciens, ils apparaissent un petit peu partout. Donc ça fait partie peut-être.
Ben là, je ne savais pas.
Mais ils sont crédités. Ils sont crédités.
C'est pas un caméo.
Ouais, donc c'est pas un caméo.
Ils ne sont pas crédités. Alors, quels sont les caméos les plus célèbres?
Caméo.
Alors,
Caméo Jordana.
Eh bien, je ne savais pas que par exemple, dans Star Wars, Le Réveil de la Force, à un moment donné, on voit Rey. Alors, Le Réveil de la Force, c'est le premier des neuf films, mais c'est celui avec Rey, vous savez, le premier dans l'ordre chronologique.
D'accord. Hein?
Donc, il y a Rey qui est capturé à un moment donné et qui essaye d'utiliser la force pour convaincre un garde, un stormtrooper, de la détacher.
Oui, elle est prisonnière, oui.
Et en fait, sous l'uniforme du stormtrooper, il y avait quelqu'un qui filmait en même temps un autre film dans les mêmes studios en Angleterre. Il y a quelqu'un qui tournait Spectre et c'était Daniel Craig.
Ouais, enfin, ça un peu.
Ah non, si, il a reconnu que c'était lui.
D'accord.
Tout le monde a reconnu que c'était lui.
C'est énorme.
Ah, tout le monde a reconnu, oui, ce
qui
était sur place.
C'est un faux caméo parce que c'est un caméo sans le savoir.
Bah oui,
on l'a su qu'après coup.
C'est un costume avec un casque.
C'est énorme. Quand même.
Donc c'était lui qui a été. D'accord. Il y en a qui ont rêvé d'être Stormtrooper.
C'est énorme.
Mais ça veut dire qu'il est en train de tourner un film.
Il tournait Spectre en même temps et puis il a participé au film. Enfin, c'est un faux caméo parce qu'en fait, on l'en connaît pas.
Non, il était pas avec sa webcam en train de...
C'est un caméo pour...
Il tournait en même temps qu'un tournage.
Mais ça pourrait,
pour les initiés, c'est un caméo.
Ouais, ouais. C'est quand même sur son CV dire que j'ai fait un caméo dans Star Wars.
C'est
quand même pas mal.
D'ailleurs, Florian, t'étais pas dans Dark Vador, toi, des fois?
Si, c'est moi.
Le caméo le plus connu, c'est un film très très récent. Est-ce que vous avez vu Deadpool 2?
Alors, non. Enfin, oui, mais après, de caméo.
Ah, si.
Dans deux, il y a à un moment donné, ils essayent de créer la X-Force. C'est des super-héros. Et dedans, il y a The Vanisher. Alors, on le voit jamais parce que c'est quelqu'un qui est invisible. Et à un moment donné.
Bah, ça, c'est facile le caméo alors.
Il saute en parachute et puis il est électrocuté. En fait, il tombe sur une ligne à haute tension.
Oui, et là, il apparaît.
Et pendant une demi-seconde, on voit son visage complètement électrifié. Et c'est Brad Pitt en fait.
Ah, c'est Brad Pitt.
Ouais, et qui a fait un caméo.
Là, ça dure vraiment qu'une demi-seconde.
Une demi-seconde, mais c'est vraiment lui.
L'homme invisible.
Il y a aussi dans Hook, un capitaine Crochet, il y a Glenn Close qui est maquillé et barbu et elle incarne un pirate.
Ah oui.
Et on la voit très bien dans Hook.
Hein.
Ça dure quelques secondes. Un rôle quand même un peu plus étoffé. Hein. On est à la limite des caméos quand même. Hein. C'est dans Star Trek de J.J. Abrams. Là, en fait, il y a Zachary Quinto qui interprète Spock et qui rencontre son homologue du futur, qui n'est autre que Leonard Nimoy.
Oui, mais c'est pas un caméo. Voilà.
Non, mais je dis que c'était à la limite du caméo.
Ah oui, il est crédité.
Mais il n'est pas. Non, il n'était pas crédité. Au début,
ah bon,
on ne savait pas. Non.
D'accord.
Non. On l'a su qu'à la fin.
Oui, d'accord.
Dans Austin Powers 3, à un moment donné, on voit il y a un film qui se tourne autour de la vie d'Austin Powers. Et ceux qui interprètent le rôle, c'est marrant, c'est Tom Cruise qui joue Austin Powers. Il y a Gwyneth Paltrow, il y a Kevin Spacey. Qui est docteur d'enfer. Et puis, tu as Danny DeVito qui joue le Minimoy.
Ah ouais, ça c'est. Oui. Donc c'est du guest ça, non?
Oui, c'est du guest, mais pareil, ils n'étaient pas crédités.
Ils n'étaient pas crédités, d'accord.
Ah non, quand on regarde bien, ils ne sont pas crédités.
Pour la surprise, d'accord.
C'est vraiment la surprise.
Parce que dans Free Guy, par exemple, donc, c'est un caméo aussi, puisqu'on a la personne, à la fin, il se bat avec le Captain America, et on voit Captain America, 3 secondes, oui. Qui regarde son smartphone en disant qu'il m'a piqué mes idées.
Ça, c'est un caméo aussi.
Aussi. Ouais, d'accord, ouais. Okay.
Dans les Marvel aussi, il y a dans Thor Ragnarok, à un moment donné, au début du film, il y a une pièce de théâtre qui représente l'histoire de Thor et de Loki. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans Thor est joué par Luke Hemsworth, qui n'est d'autre que le frère de Thor, en vrai dans la vie, Chris Hemsworth.
D'accord.
Il se ressemble beaucoup, mais c'est pas
c'est
son
pas
frère
lui.
Qui joue. Et là aussi, c'est un caméo. Ouais, c'est puis Loki, c'est Matt Damon qui joue le rôle de Loki.
Que des beaux gosses.
Voilà, ouais. Que des beaux gosses.
Dans Marvel, il y a Stan Lee aussi qui fait des apparitions.
Bah, justement, il en fait,
ah oui, il y a les Stan Lee, exactement.
C'est qui Stan Lee?
C'est le créateur, enfin un des créateurs de Marvel, la bande dessinée.
Et il apparaît dans tous les films, mais très brièvement. Ça va être un figurant.
Alors plus maintenant parce qu'il est mort, mais effectivement, il l'a fait pendant longtemps.
Ça, c'est des caméos, mais il y a aussi des gens qui interviennent. On ne sait pas qu'ils sont crédités. Je ne vais pas spoiler, mais si vous avez vu le dernier Spider-Man, là, il y a quand même...
Ah oui.
Bah, je ne veux pas spoiler, mais dans Titanic, c'était moi.
C'était toi qui jouais l'iceberg ?
Non. Super. Hein. Ah bah, bravo.
Se faire rentrer dedans, ça.
Mais je me demandais, dans les Disney... Je n'ai pas entendu.
Elle faisait l'iceberg dans... Et dans les Disney,
c'est toutes les apparitions dans. Par exemple, on a Réponse qui apparaît dans La Reine des Neiges.
Ah,
dans
oui.
Tous les Disney, ils font apparaître des personnages.
C'était des Easter Eggs, peut-être ça, non?
C'est un peu du Easter Egg.
Il y avait quoi
par exemple, dans La Reine des Neiges, quand ils ouvrent le château, il y a l'histoire, ils ouvrent le château, il y a tout le monde qui arrive. Et on voit Réponse, qui est un autre personnage, un autre Disney.
Réponse n'est pas crédité, en fait.
Oui,
c'est ça.
Bah non, mais
c'est peut-être ça, c'est une version de Disney.
Par exemple, il y a Sonia, par exemple, ici, parmi nous. Mais voilà, c'est un caméo, elle n'est pas là, en fait. Elle ne parle pas, elle est là. Magique.
Juste une dernière question, je me demandais, du coup, c'était quoi le lien avec Snapchat qui a fait les caméos aussi? Ou un peu comme les Reface, où on peut intégrer son visage et ça fait des mini vidéos, des gifs, des. Il y a une chaîne en fait de Snap comme ça, c'est des caméos où
en
le
fait,
visage est collé dedans.
Oui, c'est ça, on est intégré à une autre histoire.
Oui, à une histoire. Comme
on s'intègre à un film en
oui,
fait.
C'est ça.
C'est un caméo.
C'est ça, c'est un caméo.
Un caméo, on s'intègre à un film. Ouais. Ça se fait automatiquement maintenant alors.
D'accord, c'est sympa ça.
Très bien, merci Olivier. Allez, on prend la route maintenant. La route du Rhum, bien sûr, et sans modération, voici la chronique de Robin.
En plus, c'est très rigolo. Non, mais en plus, je joue de l'accordéon, donc écoutez, pour
c'est
autant faire.
Ah ouais.
Tout petit peu, mais autant faire cliché.
Ah ouais,
ça, mais non, tant qu'à faire. Non, mais bah, du coup, le rhum.
Un peu de surprise.
J'ai mis des bûcherons en plus.
Mais oui, écoute, tant qu'à faire pire, il manque juste le cache-œil. Non, mais donc, ouais, le rhum, on connaît très bien aujourd'hui dans le punch, le rhum arrangé, les mojitos, pina colada, mais aussi le daiquiri, le baborum, les bananes flambées, ou bien même dans les arômes pour les plats. Le rhum, en fait, c'est très courant aujourd'hui, alors qu'à la base, c'était une mélasse qui était donnée aux plus pauvres. Et qui vraiment est ancré à la fois dans notre culture culinaire, mais aussi dans l'imaginaire de la piraterie. À la base, la canne à sucre, donc qui permet de faire le rhum, elle vient d'Asie, puisque c'est là où on a les premières attestations de culture faite par l'homme. Et en fait, elle a traversé petit à petit vers l'ouest, vers l'Europe, au fil des conquêtes militaires ou des échanges commerciaux, pour arriver dans les ventres alourdis de cannes, les bateaux, emmenez-moi vers les Caraïbes, avec notre cher Cri-Cri.
Un caméo de chanson.
Exactement. Donc ouais, pour arriver dans les Caraïbes avec notre cher Cri-Cri, et je parle pas de Christophe Béchu, hein, comme on l'appelle. Ah, c'est son petit surnom sur les réseaux.
Cri-Cri, bah écoute, très bien, écoute.
Mais non, c'est Christophe Colomb qui, en 1492, arrive miraculeusement sur une île. Oui, non, mais alors je dis miraculeusement parce que bon, faut quand même soit qu'ils soient très 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 croyants et qu'ils ont vraiment foi en leurs compétences, soit qu'ils sont complètement suicidaires parce que ils sont quand même partis 2 mois ou presque en mer, même s'ils savaient que la Terre est ronde, ils savaient pas combien de temps ils allaient traverser dans l'immensité bleue.
Mais en même temps, s'ils allaient tout droit, quand même, ils avaient une grande chance de tomber sur quelque chose à un moment donné.
Ben ouais, mais ils savaient pas. Enfin, ils savaient à peu près la taille de la Terre, mais ça restait. Moi, déjà que j'ai peur en montant dans l'avion, alors que je sais où je vais et je sais que c'est sûr, etc. Eux, je pense que réussir à.
Revenons-en en Rome, s'il te plaît.
Pardon, oh là là, non, c'est... non j'ai dû trop consommer avant de
ouais,
commencer.
C'est ça, tu digresses.
Non, mais oui.
Grèce.
Grèce. Donc. ils font des traversées et en fait ils arrivent à importer la canne à sucre donc de l'Europe vers les Caraïbes notamment à Cuba mais sa production pour faire de la canne à sucre est éreintante, les gens là-bas en fait les Indiens ils sont tous morts ou bien ils sont pas possibilité de les mettre en esclavage pour qu'ils contribuent à tout ça donc pourquoi pas prendre les Africains et les faire venir le commerce triangulaire et après on connaît hein, la mondialisation entre guillemets. Mais donc ouais, et l'alcool en fait qui en est donné, c'est un vrai torboyau. Il a le nom de Kill Devil, de tu diable en français, parce qu'en fait vraiment c'est pas bon, c'est une mélasse. Il a pas été purifié comme on l'a aujourd'hui.
C'est un peu comme la vodka avec l'alcool de pomme de terre chez les Russes, quoi.
C'est ça. Et le pire c'est que c'était vachement dangereux puisque c'était un truc totalement agricole, c'était un truc fait pas dans des conditions très très bien, donc c'était les plus pauvres qui pouvaient se payer ça parce que c'était pas cher et des riches, les riches ceux qui avaient les plantations, eux ils avaient du cognac, des vrais trucs pour l'époque.
Ouais.
Et donc ouais, le nom de Rome que nous on connaît, il a été donné en 1642 à Barbade, donc dans les Antilles, mais le nom aussi de Rome avant c'était peut-être tiré de l'anglais rumblion, qui veut dire un peu rumeur, un petit peu se détacher un peu les effets en fait de l'alcool, c'est être un petit peu à l'aise. Mais on peut aussi penser que ça vient du nom de la canne à sucre. Son nom scientifique est latin, la Saccharum officinarum. Saccharum en fait Rome. Voilà. Et d'ailleurs, la cachaça, que vous connaissez peut-être, qui en fait est un cousin du rhum aussi, puisque c'est une boisson créée à partir de canne à sucre. Enfin, du coup, cet imaginaire avec les pirates arrive notamment avec L'île au trésor de Stevenson, là le livre L'île au trésor, et ça se propage jusqu'à aujourd'hui encore, par exemple avec le jeu vidéo Sea of Thieves, que vous connaissez peut-être un petit peu.
Bien sûr. Voilà. Mm-hmm. Ah bah. On était qu'à Sonic, nous, hein, tu sais, alors il y a de la marge. Hein.
Ouais, voilà. Et le rhum est aujourd'hui extrêmement connu.
D'accord, très bien. Merci Robin. Allez, c'est l'heure du Graal. Une auditrice nous a demandé l'origine de la pêche Melba. Eh bien, oui, pourquoi pas.
Elle s'ennuie un peu.
C'est gentil pour elle. Voici la réponse.
Question de Marie de Condé. D'où vient la pêche Melba?
C'est bien Marie, t'as la pêche. Je te dis tout sans attendre le dessert. C'était il y a 130 ans environ, à Londres. Une cantatrice invite un restaurateur à venir la voir à son concert au Covent Garden. Dans cet opéra de Richard Wagner, apparaît un signe. Cette scène particulière a marqué le restaurateur. Le lendemain, pour remercier la chanteuse de lui avoir fait découvrir ce beau spectacle, il crée un dessert inspiré de ce qu'il en a vu. Ce dessert représentait à l'origine deux ailes de cygne en glace, le tout dans une coupelle d'argent remplie d'un sorbet à la vanille, sur lequel sont posées des demi-pêches recouvertes de coulis de framboise et un peu de sucre. Ce dessert s'appelle la pêche au cygne, mais sera renommée pêche Melba en 1899, en hommage à la chanteuse qui a inspiré Auguste Escoffier, le restaurateur. Elle s'appelait en effet Nelly Melba.
C'était le Graal à retrouver sur le pêche Melba, à retrouver sur les comptes Facebook et Instagram. Question Graal. Allez, c'est le moment tant redouté par les chroniqueurs. Le résultat des votes des auditeurs. Vous arrêtez un petit peu, hein, pour savoir qu'était la chronique préférée de l'émission précédente. Alors, à la précédente émission.
Il y avait quoi comme sujet ?
On a parlé de la conservation des aliments,
ah oui.
Des épices, de l'abbaye de Fontevraud, ah. Des Easter eggs.
Ah oui, super.
De la crise des enfants, et on a joué au Sosochaud.
Oh, eh bien, ça va être la crise
des enfants,
des enfants,
ça marche bien.
Alors, cette émission a encore fait une belle audience et il y a une sélection d'auditeurs qui a voté pour la chronique qui les avait le plus intéressés. Eh bien, cette semaine, c'est l'histoire du patrimoine qui est à l'honneur, oh, puisque, et c'est la première fois, je crois, c'est Robin qui gagne le CMA+, sa chronique sur l'abbaye de Fontevraud. Bravo.
Sachant.
Eh oui. À réécouter donc sur le site radio-g.fr, rubrique podcast et puis CMA. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs et queuses du soir. Merci à Florian.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci à Robin.
Merci.
Merci Caroline.
Merci.
Merci Olivier.
Merci.
Et merci Mathias.
Merci. Bonne soirée.
On embrasse les autres chroniqueurs et queuses que nous entendrons dans les prochaines émissions. On se retrouve même heure et même endroit dans 15 jours pour un nouveau numéro de CMA. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.